Briançon, fin décembre 2017. Il y a plus d'un mètre de neige dans les montagnes des Hautes-Alpes. À quelques kilomètres de là se trouve la frontière italienne et la route fermée du col de l'Échelle, par où des migrants et migrantes venus d'Afrique tentent de poursuivre leur voyage malgré les difficultés du chemin et la chasse que leur mènent les autorités. Nous nous trouvons dans le squat chez Marcel, un lieu d'accueil ouvert depuis l'été sur les hauteurs de la ville. Ce jour-là, une vingtaine de personnes résident ou sont de passage dans la maison. L'entretien qui suit permet de revenir sur l'ouverture de ce lieu et la situation de tous ces exilés à la frontière entre la France et l'Italie.
Ouais, j'ai entendu parler de Briançon, de cette maison, très peu de temps avant l'ouverture. Pour rentrer en France, c'est devenu très compliqué par la vallée de la Roya. Du coup, il y a eu une espèce d'attention plus forte sur les arrivées dans les Hautes-Alpes, qui sont devenues plus nombreuses aussi du coup par rapport à l'année dernière, même si ce ne sont pas les mêmes personnes qui passent. Et donc on a compté comme ça plein de gars, surtout des gars, dont un grand nombre de mineurs qui n'avaient pas de prise en charge adaptée et qui arrivaient quand même nombreux chaque jour. De plusieurs dizaines chaque jour, ce qui fait qu'il y a eu en fait très rapidement une grosse question posée aux autorités des Hautes-Alpes, quoi. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces mineurs qui sont à la rue et qui ont besoin d'une prise en charge immédiate puisque ça fait partie des droits de l'enfance tels qu'ils sont censés être assurés ici. Il y avait déjà l'idée depuis un certain temps, je pense, voilà, d'ouvrir un espace, un espace d'organisation collective, un espace autonome sur Briançon, mais à destination de l'accueil des migrants en particulier. Et en fait, il y a eu quasiment concomitance entre l'ouverture de ce qui s'appelle la CRS, qui est le collectif Roya collectif Refuge Solidaire, pardon. Qui se situe en bas en ville, en fait. Et qui est une ancienne caserne de CRS qui a été mise à disposition par la mairie, la communauté de communes, à l'association donc collectif Refuge Solidaire, qui est une association pas si lointaine de tous migrants. C'est pas la même asso, mais voilà, c'est assez proche au niveau des personnes, des principes, etc. Il y a pu donc avoir une convention pour l'accueil officiel de 23 personnes, je pense. Ouais. Mais comme chaque jour, il y a plus de personnes que ça qui arrivaient à la maison CRS, en fait, il y a eu un phénomène de saturation et le dépassement hyper important de cette capacité d'accueil, quoi. Il y a eu plus de 100 personnes accueillies certains soirs. Et donc, en fait, il y a eu quasiment concomitance entre l'ouverture de cette maison CRS et du lieu chez Marcel, où on est maintenant, là, avec l'envie ici de fonctionner d'autres manières que dans un bâtiment conventionné avec la communauté de communes. Pas être dans un schéma institutionnel, mais plutôt essayer de fonctionner sur des pratiques horizontales autant que possible. Dans la mixité de personnes françaises et arrivant tout juste en France ou de n'importe quelle nationalité finalement, mais qui partagent soit le besoin d'être accueillis, soit l'envie de construire un lieu d'accueil ensemble et de faire la pratique d'un lieu d'accueil ensemble. Voilà, ça c'était à partir de fin août. À la fin de l'été, au début de l'automne, qu'il y a eu un ralentissement très fort du nombre de personnes qui essayaient d'arriver. L'Union européenne, à un moment donné, vers la fin de l'été, dans le cadre des accords d'externalisation des frontières de l'Europe, a versé des sommes importantes d'argent, ou promis des versements de sommes importantes d'argent aux autorités dites autorités transitoires de Libye. Alors je ne sais plus quelle partie du gouvernement dit de transition, mais de la même manière a versé pas mal d'argent aux autorités soudanaises, aux autorités nigériennes et tchadiennes, pour renforcer leur, leur dispositif de contrôle de leurs propres frontières, pour éviter en fait que les migrants continuent à venir vers la Méditerranée. Donc en fait, on est passé d'un, contexte dans l'été où il y avait beaucoup de passages, parce que dans le cycle de la détention, à un moment donné, on fait de la place dans la prison en laissant traverser les personnes. Donc les geôliers sont aussi liés aux passeurs ou sont eux-mêmes des passeurs, laissent sortir les gens et prendre le bateau et traverser à grand risque. On est passé au contexte suivant qui était, comme l'Union européenne donne des sous pour que les personnes ne puissent plus traverser, eh bien ces geôliers sont devenus des geôliers renforcés en fait et n'ont plus laissé partir les bateaux. Pour un certain nombre de bateaux, il y a eu un arrêt net des voyages. Et pendant plusieurs semaines, je crois que ça a duré au moins un mois, il y a eu vraiment des blocages et l'Europe s'est félicitée de voir le nombre de bateaux réduire. Les gardes-côtes libyens ont fait usage aussi de violences en tirant. Il y a pas mal de témoignages de ça, je ne pourrais pas en dire les sources maintenant, en tirant sur des bateaux, sur des embarcations de migrants. Il y a des migrants qui sont partis, qui ont été ramenés par les gardes-côtes libyens à plusieurs reprises en détention en Libye. Donc ça a été, une dureté de plus, quoi, un blocage de plus. Il y a eu un autre effet en fait, qui a fait que les arrivées étaient moins nombreuses, c'est qu'il y a eu un renforcement de la militarisation fort en fait. En réaction aux arrivées plus nombreuses dans le courant de l'été, la préfecture a renforcé les moyens de contrôle de la frontière en s'appuyant sur la possibilité de faire ça pendant les 2 ans qui suivent la COP21, puisque comme l'état d'urgence a donné... certaines libertés quoi, aux préfectures dans l'usage de la police sans contrôle administratif préalable, etc. Il était possible là au niveau de la frontière de pouvoir renforcer les contrôles, non seulement au niveau du col de l'échelle, du col de Montgenèvre où se situe la police, la PAF. En juillet, août, septembre, il y a une tendance croissante en octobre. Ce qui est d'abord quelques patrouilles mobiles dans la vallée, avec une voiture ou deux qui faisaient dans la vallée de la Clarée qui se situe entre le col de l'échelle Névache et Briançon, la première vallée en France, voilà, en arrivant depuis l'Italie pour venir ici. Il y avait quelques voitures de police qui passaient, de gendarmerie plutôt. Puis ça a été des barrages fixes, avec un renforcement de sentinelles, avec l'apparition de gendarmes en treillis, les FAMAS de sortie quotidienne. Petit à petit, les barrages fixes ont été des barrages de contrôle de tous les véhicules. Les citoyens du coin se sont fait fouiller les véhicules, soulever les couvertures de la banquette arrière, vérifier dans le coffre si personne n'était caché. Et un certain nombre de personnes qui avaient pris des autostoppeurs qui se trouvaient des migrants qui voulaient arriver en France et faire leur parcours ici, se sont fait arrêter, auditionner, et les personnes qui avaient été prises en voiture nouvellement arrivées se sont fait renvoyer en Italie. Et en fait, les pratiques policières ici, au fur et à mesure de l'été, ça a été de renforcer les contrôles et de renforcer le jeu, un petit peu la chasse à l'homme noir dans les montagnes du Briançonnais en fait. Donc, jour et nuit, les personnes qui étaient vues par les gendarmes en montagne, donc à 1000 mètres, à 1800 mètres ou à 1500 mètres de l'autre côté, majeurs, mineurs, tout le monde qui était à portée d'interpellation se faisait arrêter, renvoyer en Italie, soit renvoyer sur la route à pied, soit renvoyé en voiture jusque la route qui mène à Bardonecchia. Et comme il y a une zone de plusieurs kilomètres où il n'y a rien, avec la fatigue, il y a un certain nombre de gars qui voulaient traverser, qui retournaient jusqu'à Bardonecchia. Et donc, quand on a fait Bardonecchia jusqu'au faubourg de Briançon et qu'on se fait arrêter à Briançon, ça fait quasiment 40 km. Si on se fait arrêter à cet endroit-là et renvoyer à Bardonecchia, ça fait. Voilà. Ça peut faire une marche de 8, 10 heures, 12 heures, sachant qu'au milieu, il y a un col à passer. Avec la peur et tout, ça peut être très long, très fatigant. Et quand on se fait arrêter une première fois, renvoyer, et que c'est deux fois, trois fois, certaines personnes l'ont fait quatre, cinq fois. Et du coup, on peut commencer à dévier les chemins en montagne pour éviter les contrôles policiers. Dévier les chemins en montagne, ça peut être dangereux. Il y a des gars qui sont restés 4 à 5 jours paumés en montagne. Et puis voilà, après on pourrait rentrer dans le détail de ça, des pratiques policières et des violences. Mais à la mi-août, par exemple, il y a un truc qui était très symptomatique du fonctionnement de la PAF. C'était le 19 août, il y a eu deux gars qui ont été contrôlés en pleine nuit, qui ont été interpellés verbalement alors qu'ils sortaient des tunnels qui se situent sur la montée de Bardonecchia au col de l'Échelle. Et les tunnels en fait sont sur une route de flanc de montagne avec en dessous du ravin presque à la verticale avec des barres rocheuses qui se succèdent. Et en fait la PAF a interpellé les deux jeunes qui marchaient. Leur souvent de s'arrêter, évidemment les deux jeunes ont fait demi-tour et ils sont partis en courant dans le sens inverse, ils ont traversé les deux tunnels, ils se sont planqués derrière un muret, sauf que le muret était justement au sommet du ravin et la police arrivant, ils ont glissé en fait et ils sont tombés, ils ont débarroulé d'une barre rocheuse. Et là la mise en danger est explicitement celle des forces de l'ordre en fait, sauf que évidemment dans le journal le lendemain il était précisé que grâce aux forces de l'ordre ces deux jeunes qui étaient tombés d'une barre rocheuse avaient pu être secourus, mais s'ils n'avaient pas été pourchassés peut-être qu'ils n'auraient pas eu besoin d'être secourus quoi. Et en fait ça c'était au mois d'août le prélude à ce qu'on a pu craindre et qui se vérifie en fait, à savoir que dans un terrain montagneux, le fait qu'il y ait des forces de police qui soient déployées pour bloquer une frontière, eh bien, ça renforce les dangers qui existent déjà du simple fait qu'il y ait une montagne à traverser. Au-delà de la maison CRS et de la maison de chez Marcel, il y a un réseau de famille, c'est un réseau d'hospitalité ou réseau Welcome, je ne sais plus comment ça s'appelle, un réseau de famille qui accueille des personnes avec ou sans titre, des mineurs ou des majeurs, dans Briançon ou dans les alentours, qui essayent de se battre pour leur permettre de trouver une place ici, ou d'avancer. Et dans les vallées montagneuses qui sont autour de Briançon, et notamment qui sont les vallées par lesquelles on vient d'Italie, vallées de la Clarée ou vallées autour de Montgenèvre, il y a tout un tas de personnes qui, évidemment, voient la montagne comme ce qu'elle est, un lieu où il y a des dangers, et où quand on est épuisé, pas habitué à la montagne, éventuellement traqué, pourchassé par une police qui vous veut pas du bien, et ben quand on voit une personne isolée ou quand on sait qu'il y a des personnes isolées, qu'il y a des personnes en danger, parmi les comportements qu'on trouve beaucoup ici, heureusement, il y a la solidarité montagnarde. Donc les personnes s'organisent pour aller vérifier qu'en montagne, personne dans tel ou tel versant est isolé, perdu, ou bien se mettre à disposition chez elles de la place, ou bien se relaient pour différents types de services aux migrants qui arrivent. Donc le village de Névache, mais aussi des villages intermédiaires entre Névache et Briançon, ou même à Briançon, il y a tout un tas de personnes qui accueillent et de manière complètement silencieuse en fait, qui ne souhaitent pas forcément se rendre visible de ça, mais où c'est une solidarité spontanée et qui fait partie de la culture peut-être d'ici, parce qu'il est hors de question de laisser quelqu'un, pour un certain nombre de gens vivant ici, il est hors de question de laisser les gens en danger seuls dans la montagne. Il n'y a pas encore eu de condamnation, mais j'ai entendu l'autre jour parler le préfet, l'ancien préfet Cour, de la réussite des services de police, puisque les services de police avaient réussi à arrêter cette année 28 passeurs contre 3 l'année d'avant. ce qui montre bien qu'il y a une structuration, etc., tout l'argumentaire du préfet. Et en fait, quand le journaliste lui demande est-ce qu'il associe à ses passeurs les personnes solidaires, la réponse du préfet c'est est considéré comme passeur quiconque participe à l'entrée illégale d'une personne en situation irrégulière. Pour le préfet, visiblement, être solidaire des personnes en détresse, c'est déjà être délinquant. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes ici qui refusent le qualificatif de délit, de délinquant, d'être un délinquant, délinquante, juste parce qu'ils se solidarisent et qu'ils rendent des services concrets à des personnes qui sont dans des situations difficiles temporairement. Et que la solidarité, elle est justifiée notamment par les prises de risques et qu'elle est exigée même en fait par la situation, ou sans quoi on pourrait se dire qu'on ne rend pas qu'on porte pas assistance à des personnes qui sont en danger, quoi. Nous, après, on essaie ici aussi de construire petit à petit un fonctionnement, de mettre en place un infokiosque, une bibliothèque qu'on amène parfois au marché, de participer ou d'organiser des temps publics. Par exemple, on a fait un truc à la filature de Longomaille. On a fait des soirées dans des cafés associatifs associés. On essaye comme ça, voilà, de tisser des liens en local, d'être aussi présent dans une certaine forme de coordination à Gap et à Vennes avec les lieux d'accueil. À Gap, maintenant c'est fermé, mais c'était la paroisse, ou alors à Vennes qui est le centre d'hébergement d'urgence des mineurs. On arrive à garder contact avec plein de potes qui sont un peu partout en France. Et notamment dans des régions avec qui on tisse des liens plus forts. Je pense à la Drôme, par exemple, où on, des amitiés existantes se renforcent, en fait. On a un lien avec quelques réseaux, quelques lieux amis des Alpes plus au sud, des Alpes de Haute-Provence, de Provence, avec des amis à Marseille un petit peu, à Lyon, à Grenoble. On essaye de tisser petit à petit les liens pour que, du coup, voilà, les dynamiques de circulation dans le territoire soit plus simple. Il y a un certain éloignement et un certain enclavement de Briançon. Après, pouvoir être accueilli dans les villes quand il y a déjà plusieurs centaines de personnes dehors, c'est hyper compliqué. Donc on a vraiment besoin de pouvoir être en lien avec des lieux d'accueil un peu sûrs, parce que parfois il y a des personnes qui sont bien plus vulnérables que d'autres. En fait, en arrivant dans une grande ville, maman avec deux enfants en bas âge, ou bien jeune, sans contact, ou même pas jeune mais sans aucun contact et avec pas du tout envie de dormir dehors en plein hiver, ça peut être pas mal d'avoir des lieux d'accueil un peu sûrs, quoi. Et donc on essaye de tisser ce réseau là aussi avec d'autres grandes villes, mais comme partout c'est la chasse aux lieux occupés et la chasse à solidarité, c'est pas évident, quoi. On a l'impression que la situation déborde vraiment de partout en France, et que les difficultés qu'on a ici résonnent avec d'autres difficultés vécues ailleurs dans le territoire, et qu'en fait ici on est juste un des endroits de la frontière, mais que la frontière en fait elle a tendance à être un peu partout maintenant, quoi. Test à la frontière, moi j'ai l'impression un test d'opinion aussi qui est fait, c'est-à-dire que c'est le lieu où on peut justifier d'être particulièrement craintif de la menace, parce que c'est la limite extérieure du territoire. Et c'est là que pourrait rentrer l'ennemi, en fait, dans la mythologie nationale et dans la mythologie antiterroriste, quoi. Et donc en fait, à cet endroit-là, on peut justifier d'utiliser tout un tas de... On, quand je dis on, là, c'est l'État peut essayer de justifier tout un tas de pratiques extraordinaires pour ensuite, dans le reste du territoire, essayer de les généraliser, de les rendre ordinaires, en fait. Une fois qu'on a vérifié que c'était pas si choquant pour l'ensemble de l'opinion, à la frontière, et ben on peut essayer de le tester dans un certain nombre de spots, les gares, les lieux de rassemblement public, etc. Et puis petit à petit le généraliser, en fait. Et c'est comme ça qu'on rentre dans une société qui est de plus en plus policière. Alors je sais pas si ça commence aux frontières, mais moi en étant ici, j'ai l'impression qu'en tout cas c'est un lieu de laboratoire pour les pratiques policières, pour les pratiques répressives. Un test d'apartheid aussi, parce que jusque dans le centre-ville de Briançon, en fait, cet été, il y a eu des témoignages d'arrestations en pleine journée de personnes noires, juste parce qu'elles sont noires, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un sort du magasin de vêtements, quelqu'un sort de l'hôpital, quelqu'un est à 50 mètres du lieu associatif et se fait arrêter en pleine journée juste parce qu'il est noir. Sa date qui fait passer dans la loi ordinaire un certain nombre de dispositions de l'état d'urgence, il y a eu la multiplication du nombre de points frontaliers dans le territoire, où il y a 373 nouveaux lieux dans le territoire qui sont désormais classifiés ou étiquetés, identifiés comme des PPF ou des PPA, qui sont des points de contrôle, en fait, où la police a des prérogatives comme aux frontières. Ça veut dire qu'elle peut demander des papiers d'identité parce qu'elle a suspicion que cette personne est entrée illégalement dans le territoire. Parce qu'elle peut demander les papiers des passagers d'une voiture, ce qui normalement n'est pas toléré dans le cadre d'un contrôle routier, parce que c'est que le conducteur normalement qui doit faire ça. Dans un PPF ou un PPA, on peut saisir l'ensemble des matériels téléphoniques, informatiques des personnes contrôlées, même des passagers d'une voiture. On peut demander l'ouverture du coffre, on peut, etc. Donc en fait, il y a des moyens de police, je dirais aggravés en fait, renforcés et aggravés, et notamment des mécaniques qui sont de l'ordre de qui généralisent les pratiques d'apartheid, en fait, avec un traitement à part sur la base d'une discrimination raciale, puisque les éléments qui peuvent fonder la décision policière de juger que quelqu'un est menaçant, ça va être par exemple, en l'occurrence, la couleur de peau d'une personne, ou son apparence physique, et donc une représentation raciste. Deux circulaires qui sont passées, la circulaire du 20 novembre et la circulaire du 15 décembre, je crois, ou du 12. La circulaire du 20 novembre encourage les préfets et les exhorte à améliorer leurs objectifs d'expulsion, en fait, d'enfermement et d'expulsion. Et ils arrivent quand même à libeller en gras pour faciliter l'accueil des migrants. Dans la circulaire du 15 décembre, le 115 devient l'objet des préoccupations du ministère de l'Intérieur et devient un lieu où la préfecture, donc des équipes mobiles composées d'agents de la préfecture, de l'OFI et je ne sais plus qui d'autre, peuvent exiger de faire des contrôles de situation administrative, en fait, dans les 115, qui était jusqu'à maintenant un lieu d'accueil inconditionnel, qui va rester un lieu d'accueil inconditionnel, mais où l'État pourra venir faire du contrôle. Donc le centre d'hébergement d'urgence n'est plus un lieu où on peut dormir de manière certaine, même sans papier. À partir de maintenant, on peut s'y faire contrôler, arrêter et envoyer vers un centre de rétention avec l'objectif pour l'État, le ministère de l'Intérieur, de délivrer rapidement des OQTF à toute personne, de dégager de France toutes ces personnes. Donc en fait, dans ces perspectives-là, avec ce qui se passe en France, la multiplication des points de frontière et la systématisation du régime de détention avec les centres de rétention, les PRADA, le maillage du territoire, en fait, avec partout la possibilité tout le temps de se faire contrôler, de se faire arrêter, avec les dynamiques qui sont celles du renforcement de l'état policier, avec des campagnes pour recruter des policiers, des geôliers, des soldats et des volontaires bénévoles aussi de la police, avec tous les encouragements à être des voisins vigilants et délateurs. Pour ce qui concerne l'intérieur du pays et pour l'extérieur du pays, à savoir la gestion externe des frontières et la volonté des autorités françaises et européennes, en fait, de refermer l'Afrique et d'empêcher concrètement en fait les départs d'Afrique avec la délégation des frontières en fait là-bas, la mise en place de camps avec la prise d'empreintes dans les pays qu'on a cités tout à l'heure, Libye, Tchad, Niger, ça c'est vraiment l'objectif de Macron d'arriver à mener ça. Ça signifie que la quasi-totalité des personnes ne pourraient plus partir parce que seraient jugées migrants économiques et pas demandeurs d'asile légitimes, comme si la destruction méthodique des économies et des sociétés par les États européens depuis un siècle n'avait pas été la base aussi de toutes les situations politiques, quoi, ou n'était pas associée à toutes les situations politiques actuelles. Il y a une volonté en fait de faire une société légitime et légale, celle qui est blanche et qui a les papiers, ou celle qui n'est pas que blanche mais qui a les papiers et qui a l'encouragement à se battre pour avoir un travail mal payé, et le reste de la société qui est la société dite illégale, plutôt noire ou arabe pour simplifier. Et qui n'a pas vocation à faire partie du pays, en fait, à faire partie de la nation, selon tous les précédents, ou le président d'aujourd'hui, le gouvernement d'aujourd'hui. Et on a l'impression qu'en fait, tous les vœux du Front National sont poursuivis par les gouvernements successifs, et qu'il n'y a pas besoin que ce parti accède au pouvoir pour que la politique soit raciste et policière. Dans ce contexte-là, comment me projeter ? Je pense que dans le questionnement sur la frontière et la réflexion sur la frontière, en fait, on peut s'approprier les enjeux que posent les frontières et en fait toutes les frontières de la société. Mais par exemple, la frontière, voilà, qui limite le territoire, qui définit des étrangers, qui définit des clandestins et le racisme sous-jacent. Je pense qu'on peut s'approprier ces questions un peu partout et que déjà ça fera avancer le réseau et les connexions possibles entre nous, en fait. Qu'on arrête de se faire croire que cette question, et c'est du passé, que la France n'a pas à se poser la question de son colonialisme, etc. Et que non, c'est au cœur de l'économie française, c'est au cœur de la société française, c'est au cœur de la politique internationale menée par la France, c'est au cœur des industries qui emploient aujourd'hui en France, qui sont les acteurs industriels qui font du pognon. Moi, je pense qu'on a besoin vraiment de prendre le temps là, de regarder toutes ces questions et de se dire, ok, si de l'intérieur, nous, en tant que Français qui avons tous les droits, par exemple, on s'attelle pas à démonter, à essayer de questionner pour pouvoir les démonter de l'intérieur tous les mécanismes que cette France-là, que la France continue à générer et à nourrir pour maintenir ses citoyens à l'intérieur du cadre et de cette norme. Si on questionne pas cette norme, on aura beau s'agiter ici, quelque part on restera ici, associé à quelques autres lieux un peu isolés, alors que dans tous les lieux, partout et tout le monde peut questionner en fait la société dans laquelle il vit et qu'est-ce qui fait société en fait. Si ce qui fait société c'est les frontières qui excluent les autres, est-ce que finalement je me reconnais dans cette société-là? Et en fait, moi je pense que cette maison elle a une vocation ici, mais la vocation surtout à résonner avec, en tout cas c'est comment moi je l'aperçois, et peut-être que moi j'ai l'impression que c'est un lieu qui doit juste résonner dans un ensemble de lieux en fait, ou dans le tissu d'une société qui questionne. Il est fondamental en fait que les personnes directement concernées, ceux qui sont appelés migrants, exilés, voyageurs, aventuriers, demandeurs d'asile, réfugiés, personnes nouvellement arrivées, primo-arrivants, que tous les individus et toutes les familles, toutes les communautés concernées prennent la parole, puissent la prendre en tout cas, qu'on laisse les espaces dans les médias, qu'on oriente nos médias pour de l'inclusion en fait des personnes qui n'ont pas la parole dans les médias dominants. S'il y a plus de visibilité des situations, le rapport de force peut commencer à évoluer. Et voilà, et ensuite d'autres choses qui se construisent. Mais il est super important que là, le rapport de force change et que si les frontières elles doivent lever des questions, mais qu'elles puissent permettre aussi des prises de parole qui jusque-là étaient refusées, quoi.